Nous allons poursuivre, suite à vos témoignages très riches, avec Pierre-Michel Menger, qui, je suppose, a écouté ces témoignages. Bonjour à nouveau, monsieur Menger. Est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends. Et vous, vous m'entendez ?
Très bien, parfait. Tout le monde vous entend bien et on vous voit aussi. Donc voilà, bah, vous avez entendu ces deux témoignages hein, de ces deux étudiantes poitevines. Vous êtes sociologue, professeur au Collège de France, à la chaire de sociologie du travail créateur, comme l'a évoqué tout à l'heure Olivier Ginez. On va vous laisser revenir justement sur Alors, la première question qu'on vous posait, c'était une question très très naïve. On vous posait la question de qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? Voilà, donc c'est quelque chose de très ouvert, et je sais que vous avez travaillé sur ces questions-là, peut-être pas tout à fait de cette manière, vous allez le préciser, mais l'idée de cette conférence était vraiment de revenir sur l'artiste, puisque c'est vraiment la problématique que rencontrent les référents qui sont dans cette salle ou à distance. Donc je vais vous laisser réagir peut-être et puis nous présenter ce que vous comptez nous présenter.
Très bien, merci beaucoup. Désolé d'être à distance, mais mon agenda de travail est un peu compliqué. Et d'abord, mes remerciements aux deux spécialistes de ces questions et au ministère de l'enseignement supérieur, Anaïs Riedel et Alain Bourg, qui m'ont contacté et qui m'ont sollicité. Et bonjour à toutes et à tous, et merci de votre accueil malgré la distance. Je consacrerai mon cours de cette année qui vient au Collège de France à la question des arts, le cours s'intitulera « Les arts au défi des sciences sociales ». Donc, le Collège de France, comme vous le savez, est une maison ouverte, n'importe qui peut venir, où n'importe qui peut se brancher sur la totalité des contenus qui sont donnés online. Et donc, je vous invite à en bénéficier si vous le souhaitez. Et tous les cours antérieurs sont évidemment aussi disponibles. Pour répondre à cette question de qu'est-ce que c'est qu'un artiste, il y a beaucoup de manières de faire. Il y a un livre de Bruno Frey et de Werner Pomeren qui concerne le monde de la culture et des arts et qui donne 8 définitions possibles des artistes. Ça va du temps de travail à la filiation à une association professionnelle, mais aussi jusqu'à la réponse type recommandation de l'UNESCO de 1980. Pensez-vous que vous êtes un artiste ? Oui, alors voilà, je suis artiste, je suis enregistré comme artiste. Mais il y a aussi des affiliations à la sécurité sociale des auteurs. On ne peut y être affilié que si on a réalisé un certain nombre d'heures de travail. Et sinon, on passe devant des commissions de professionnalité, etc., etc. Il y a beaucoup de dispositions possibles ou de possibilités de définition, évidemment, mais une fois qu'on travaille avec des données, l'INSEE a créé une catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures en 1982 dans laquelle elle a reclassé les artistes. Et auparavant, ils étaient perdus dans un paquet avec le clergé, l'armée et la police. Donc voilà, bonne nouvelle, les artistes se retrouvent rehaussés statutairement et socialement grâce à l'INSEE. Et l'INSEE a ensuite utilisé évidemment ce type de catégorisation pour dénombrer les artistes dans des enquêtes, soit le recensement démographique, soit les enquêtes emploi qui sont beaucoup plus régulières. Et les données qui sont issues de ces enquêtes sont disponibles et montrent toutes des tendances assez précises qui sont la progression de la population des artistes. Si j'entends par artiste, dans toutes les enquêtes d'emploi, etc., ont été bien exploitées par le département des études et la prospective du ministère de la Culture. Vous trouverez beaucoup de publications en 1922, 1924, 1925 sur les résultats de toutes ces enquêtes. Et je vous invite à les regarder, elles sont très précises. Moi-même, je reprendrai des données des enquêtes emploi dans le cours que je donnerai avec mon ingénieur Colin Marchica. On est en train d'exploiter ces données. Et On peut avoir, au fond, deux définitions de l'artiste à partir de ce que je viens de dire. D'une part, vous pouvez énumérer un certain nombre de professions artistiques, les professionnels de l'audiovisuel et du spectacle, les musiciens, les danseurs, les comédiens, etc. Mais vous pouvez y mettre aussi, bien sûr, les auteurs, les plasticiens, les architectes et les professeurs d'art, par exemple, aussi. Ce sont des décisions que vous pouvez prendre ou recomposer en fonction de votre intérêt pour ces questions. Et quand on regarde ces questions-là et ces définitions-là, on a des tendances à la hausse de ces populations d'artistes. Toute la question et la catégorie qui progresse le plus vite, c'est l'ensemble des professions de l'audiovisuel et du spectacle, c'est-à-dire des industries du spectacle et de l'audiovisuel qui ont des caractéristiques assez particulières. Je les ai étudiées dans d'autres publications, notamment à propos de ce fameux dispositif ou régime d'emploi qu'est l'intermittence du spectacle, qui a comme particularité de créer un déséquilibre structurel entre l'offre d'emploi de la part des employeurs qui est dispersée sur beaucoup de candidats à la profession. Et l'offre d'emploi, c'est-à-dire les demandes émises par les employeurs, augmente moins vite que le nombre de candidats à la profession, et surtout elle est dispersée en fragments, en projets et en quantité d'heures de travail qui peuvent varier beaucoup d'un individu à l'autre. Et donc il y a un mécanisme, mais par ailleurs ces industries-là progressent. La question est, quel est l'équilibre entre le vivant et l'audiovisuel, ou maintenant l'artificiel, qui est un autre grand sujet. Mais ces tendances sont à la hausse par rapport à une population active qui progresse beaucoup moins vite. Les courbes sont très précises là-dessus. Ce sont des mondes en expansion jusqu'à maintenant. Et évidemment, on peut se poser la question de savoir quelles sont les conditions, évidemment, de professionnalisation, de formation et de réussite dans ces métiers qui sont en expansion et où les écarts de réussite, j'y reviendrai, sont très élevés. Mais il y a une autre, pour répondre d'une autre manière, il y a eu dans les années 90 un mouvement qui est parti d'Australie, qui a gagné l'Europe à travers la Grande-Bretagne, puis l'Europe du Nord, pour parler non plus de profession artistique, mais de creative occupations ou bien de creative nations. Autrement dit, on a substitué le vocabulaire de la créativité au vocabulaire du classique des professions artistiques. Et on a en quelque sorte recomposé ces catégories ou ces activités en fonction de ce qu'on peut appeler la teneur en créativité des métiers. Et on peut, à la faveur de cette recomposition des définitions, on peut donner évidemment une extension plus vaste à la catégorie des professions culturelles, créatives culturelles, si vous voulez, et on y inclura ce qui a été fait dans un certain nombre de pays, non seulement ce que je viens de dire, l'architecture, la musique, les arts du spectacle, les arts plastiques, mais on va y inclure aussi les métiers d'art, la publicité, le design, la mode, les jeux vidéo et même tout ce qui est aujourd'hui les métiers de l'informatique, les concepteurs de logiciels, les services informatiques. Et donc, on a à la fois une évolution, mais qui peut être aussi une tension entre deux formes de définition, qui sont la définition par des secteurs qui sont réputés être plus créatifs que d'autres, et une définition par les métiers ou les professions. Et ce mouvement-là n'est pas sans signification, évidemment, sur les comptabilités que vous faites dans un monde de travail. Comment est-ce qu'on qualifie aujourd'hui le travail en fonction de cette teneur en créativité, dont le centre, le noyau dur pourrait être les arts, qui sont réputés être les plus soucieux d'originalité, de différenciation productive pour produire des œuvres, des spectacles et des carrières, mais aussi en fonction de leur intérêt économique, évidemment, pour les individus, mais aussi pour la société et sociale. Et si vous adoptez une définition plus large, vous allez, où vous croisez la définition par les métiers et la définition par les secteurs, vous obtiendrez des calculs très précis en 2019, selon les statistiques dont j'ai disposé. Vous aviez, par exemple, 384 000 actifs qui étaient dans des professions culturelles et dans un secteur culturel, mais vous pouviez avoir aussi des professions culturelles dans un secteur non culturel, 272 000 pour les chiffres qui étaient disponibles, par exemple, être, selon ce que je viens de dire, designer dans l'industrie automobile. Qu'est-ce que vous faites? Si vous les déclarez profession artistique ou culturelle, eh bien, elles sont dans un secteur non culturel, mais ça pose une question intéressante de reconnaissance, de valorisation de compétences, etc. Surtout au moment où une des grandes évolutions, c'est de quels skills avons-nous besoin, de quelles compétences avons-nous besoin dans l'évolution de nos sociétés. Et puis, vous avez des professions non culturelles dans un secteur culturel. Par exemple, être assistant ou secrétaire dans un cabinet d'architecte. Voilà. Et donc, vous pouvez jouer et recomposer ces comptabilités-là et ces définitions-là de cette manière-là. Ça n'est pas un simple jeu statistique, c'est aussi une manière de décrire les intersections, les imbrications, les intersections, les complémentarités entre des professions et des secteurs d'activité. On peut être artiste et être employé par ailleurs dans un secteur qui n'est pas strictement artistique, c'est ce que je voulais dire à l'instant. Ça a une incidence aussi sur ce que j'entends et sur le sujet qui est le vôtre et auquel j'ai été sensibilisé par un entretien avec Anaïs Ridel et Alain Bourg quand ils m'ont contacté. Au fond, qu'est-ce que veut faire un étudiant quand il choisit d'avoir deux formations plutôt qu'une seule avec des degrés de complémentarité plus ou moins élevés entre les deux formations. Vous voyez bien qu'en prenant cette vision multiple, multifocale des arts et de la culture et de leur immersion ou non dans l'ensemble des secteurs de l'économie, on peut apercevoir des questions et des réponses au genre de problème que j'évoque. Je ne vous apprendrai rien, ou du moins je ne vous l'apprendrai pas autrement que sous forme verbale, mais les chiffres sont importants, évidemment, sur le point de savoir si on gagne bien sa vie comme artiste. C'est évidemment un sujet qui a été beaucoup expertisé, pas de manière très simple d'ailleurs, parce que les artistes, je vais le dire à l'instant, sont souvent pluriactifs. Et donc, qu'est-ce qu'on compte dans les revenus? On peut les décomposer, mais la recherche a été de plus en plus précise. En moyenne, être artiste, ça vous situe à peu près... être dans des professions artistiques, ça vous situe à peu près dans la moyenne des revenus de la population active, alors même que vous êtes classé dans la catégorie supérieure, comme je l'ai dit tout à l'heure, des professions artistiques et des cadres et professions intellectuelles supérieures, qui est la catégorie, disons, des classes supérieures en termes de profession. Voilà, et avec des situations, d'une part la moyenne dit quelque chose, mais les inégalités internes sont extrêmement importantes aussi. Quand on regarde, qu'on comptabilise la totalité des revenus dans une profession comme celle des plasticiens ou des comédiens, 20% des plasticiens obtiennent à peu près 80% des revenus disponibles. C'est ce qu'on appelle une loi de puissance, la loi de Pareto. Ça n'est pas vrai pour toute l'existence des individus ou de savoir de quel côté ils sont. Les carrières sont dynamiques, évidemment. Et les auteurs, c'est encore plus violent. On a aujourd'hui... le prix des Goncourt sera décerné. Vous imaginez bien ce que sont les écarts de réussite entre des auteurs, 500 romans publiés à la rentrée, et combien vont au fond être successful. C'est une question importante et les données sont impitoyables de ce point de vue-là. Mais le revenu est composite, et il y a des revenus principaux liés à l'activité artistique, et il y a des revenus complémentaires liés aux autres activités. Ça, je vais en parler tout de suite. Et il y a des revenus liés au ménage dans lequel les individus sont présents, s'ils sont en couple, et souvent la gestion du risque financier d'une vie d'artiste, elle se fait aussi comme ça, à travers des différents types de revenus complémentaires. Une recherche a montré que les individus n'étaient pas strictement motivés simplement par le revenu. Ça, c'est un vaste sujet. Perdre sa vie à la gagner, non. Les artistes sont des êtres assez sophistiqués en la matière. Ils doivent trouver le moyen... d'abord, évidemment, de gagner leur vie, mais à partir du moment où, à travers différentes stratégies, ils peuvent obtenir un niveau de vie suffisant, ils abandonneront des activités accessoires qui leur auraient été utiles pour gagner leur vie et pour se recentrer sur leur activité principale. C'est un point clé, et la composition des activités principales et adjacentes, elle est très variable selon les métiers, évidemment. Mais je vais y revenir à l'instant. Les auteurs, puisqu'on vient d'en parler, souvent les auteurs sont journalistes ou enseignants. Ce sont des compositions de portefeuille d'emploi, comme on peut les appeler, qui sont variables, mais qui ont quelques points clés. Voilà, ça dépend de la gamme des métiers qui sont offerts dans des secteurs d'activité. Et vous pouvez composer des portefeuilles d'emploi principaux et adjacents assez variés selon la gamme des métiers qu'offre un secteur d'activité. La musique, typiquement, des interprètes, des auteurs-compositeurs des musiciens de musique électronique ou pop ou moins classiques, mais peuvent devenir eux-mêmes producteurs, s'impliquer dans toutes sortes de rôles professionnels qui sont reliés au noyau, disons, de la créativité la plus importante. Et puis, il y a d'autres revenus complémentaires, mais je ne vais pas insister là-dessus, parce que là, les données méritent d'être regardées de très près, et les publications dont je parlais de la direction ou du département des études vous donneront tout. Ce qui est intéressant, et on entre un peu plus dans le sujet qui est le vôtre aussi, c'est ces doubles formations peuvent être à la fois une manière d'enrichir celle des formations qui finira par l'emporter. J'entendais une étudiante en médecine parler de sa formation aussi en musique. Est-ce que c'est, au fond, une question de passion personnelle pour la musique qu'elle ne va pas lâcher tout de suite et qu'elle va simplement poursuivre pour avoir un équilibre de vie meilleur? Ou est-ce que c'est une manière d'acquérir des compétences qui, sans être préméditées, vont devenir extrêmement utiles dans son métier de médecin? Ce qui est une possibilité, si vous déployez une architecture d'analyse des compétences nécessaires pour réussir une vie professionnelle, y compris dans des métiers assez techniques comme la médecine, plus vous allez enrichir la description du métier, plus vous allez rechercher dans des formations complémentaires ou différentes, si elles ont une relation de proximité ou simplement de simple convergence par passion personnelle avec la formation principale. Mais ça peut être aussi une question de est-ce que je garde jusqu'à le plus tard possible la possibilité de m'orienter dans telle ou telle direction en fonction de ce que j'ai appris sur moi-même. Si je réussis dans la formation musicale ou dans la formation d'artiste plasticien ou d'artiste de scène, comme l'autre de mes intervenantes étudiantes, je lâcherai peut-être le métier que j'aurais envisagé dans la formation qui m'a permis d'avoir cette position d'étudiant artiste. Mais je peux aussi choisir d'avoir une vision plus dynamique, sans la calculer précisément, qui est je commence comme ça et puis éventuellement je me reconvertis. Les vies professionnelles sont certainement peut-être moins linéaires à l'avenir qu'elles l'ont été jusqu'à maintenant, les chocs technologiques et les transformations de, socio-économiques et la compétition internationale vont nous apprendre beaucoup de choses là-dessus, évidemment. Mais quand on regarde, pour vous documenter ça de manière non verbale, mais avec des données, on est en train d'étudier ça avec mon collaborateur au collège, et je le présenterai dans mes cours, quand on regarde les professions artistiques stricto sensu, et qu'on demande, grâce à l'enquête emploi de l'INSEE, combien les individus ont de professions, ce qui paraît être, on peut regarder combien ils ont d'employeurs, ça c'est un sujet classique, et dans les arts, ils en ont plus qu'ailleurs. Ce sont des stratégies justement de gestion du travail au projet, etc., etc. Mais ensuite, on peut leur demander aux enquêtés combien ils ont d'employeurs, de professions. Et ça, c'est une question moins banale. Quand vous regardez la population active en général, 98% des gens n'ont qu'une seule profession. Mais quand vous regardez les métiers artistiques, les auteurs sont les trois quarts disent j'ai une seule profession, mais il y en a quand même 25% qui en ont plus qu'une. Et il y en a même 5% qui en ont deux ou plus. Et c'est la même chose pour les comédiens. Alors, c'est encore une fois, et j'en ai déjà parlé, des professions complémentaires ou supplémentaires qui sont plus ou moins bien reliées de manière substantielle à l'activité principale et qui peuvent être abandonnées si l'activité principale de vocation, en quelque sorte, vous permet de réussir. Quand vous allez à New York et que vous êtes au restaurant, beaucoup de serveurs sont extrêmement sympathiques, ont une gestion de la relation client, pour l'appeler comme ça, qui n'est pas banale, sont souvent des comédiens ou des comédiennes, et voilà, et donc ça fait partie de leurs conditions d'existence. En France, ça n'est pas la même chose pour d'autres raisons, mais on en trouve aussi. Et voilà. Donc c'est une des leçons de ces enquêtes. Elles ne disent pas la totalité de ce qu'est les professions adjacentes, mais elles nous mettent sur la voie de cette pluriactivité qui est une affaire importante. Pluriactivité de contraintes ou pluriactivité de choix qui nous met aussi en relation, qui nous met sur la voie de mais pluriformation ou pas au départ. En France, on a une formation souvent par silo très tôt. Aux États-Unis ou ailleurs, on peut avoir des formations plus ouvertes. On ne choisit le cœur de sa formation que progressivement, au bout de deux ou trois années, avec des majors et des minors et des choses comme ça. Mais quand on a la formule de l'étudiant artiste, on peut se poser cette question-là. Je rappelle que les artistes ont un niveau de formation dans leur spécialité qui les place assez haut dans la hiérarchie des professions. Ils sont, quand on regarde combien ont un bac plus 3, l'ensemble des professions artistiques sont à plus de presque 50% à avoir bac plus 3 au moins, alors que la population active n'est qu'à peu près 30%. Donc, on voit clairement que la formation est un enjeu important qui est devenu de plus en plus important à mesure que les formations artistiques se sont développées, ont été reconnues, validées, etc., etc. Mais voilà. Alors, ce qui est un point intéressant et que je relis à la fois au témoignage et à ce que je viens de dire sur la pluriactivité, c'est évidemment, avec un niveau de formation tel, le revenu n'est pas, ne paraît pas être en correspondance directe. Et de fait, c'est un casse-tête quand on fait des analyses économétriques pour savoir qu'est-ce qui détermine le revenu dans des professions. Il y a des professions pour lesquelles c'est assez simple. La formation joue un rôle, elle ne joue pas le rôle le plus complet. Vous n'expliquez que 30 à 50% de la variance du revenu par la formation initiale. Mais dans les arts, c'est beaucoup moins que ça. Et donc, Et c'est aussi lié à des enquêtes, quand j'avais dirigé une très grande enquête sur les comédiens à la fin des années 90, qui a été publiée, qui n'est plus disponible, hélas, mais il faudrait que je la mette sur Internet. On avait enquêté auprès de 1000 comédiens en face à face, avec à peu près 160 questions. Donc on avait obtenu énormément de données précises qu'on avait contrôlées par des sources indépendantes. Et une des choses qui était frappante, c'était... La formation initiale, évidemment, elle compte, mais il y a autre chose qui compte aussi. C'est la pré-professionnalisation ou les expériences professionnelles en le cours même de la formation et d'autre part, l'expérience accumulée sur le tas ensuite, qui compte aussi beaucoup et qui expliquera finalement beaucoup plus que la formation initiale, même si la formation initiale est un levier évidemment nécessaire, mais ça n'est pas une condition suffisante pour se procurer les conditions de viabilité d'un projet professionnel. Et ça, c'est important. Ça veut dire aussi que ces vies d'artistes sont des vies compliquées pour se maintenir dans une vie, dans une profession artistique. C'est une succession d'épreuves de compétition aussi, parce que beaucoup sont appelés, moins sont élus. Et donc, il faut durer, il faut arriver à se forger son calendrier de travail, ses quantités de travail, ses liaisons avec des employeurs, qui sont aussi des sujets passionnants à regarder, et gérer au mieux les activités adjacentes d'appoint qui peuvent vous donner le moyen de gagner votre vie provisoirement avant de recentrer ou non. Mais ça veut dire que tout ça veut dire une chose assez simple, c'est que la pluriactivité, la pluriformation peuvent être évidemment des points non négligeables. Le tout est de bien les doser. Comme je dis, c'est une question de dynamique. Quand vous avez des situations complexes de cet ordre-là, les artistes sont des champions pour transgresser un peu toutes les situations normales. Quand vous êtes ingénieur, vous avez une formation d'ingénieur et vous allez essayer d'occuper une position d'ingénieur. Pas toujours, mais enfin, l'essentiel, c'est ça. Quand vous avez une formation d'artiste, vous avez à gérer beaucoup de choses. Premièrement, la formation ne vous apprend pas tout. Le travail sur l'expérience sur le tas vous apprend beaucoup de choses aussi. Évidemment, on peut contraster des métiers très différents les uns des autres. La musique classique, si vous n'avez pas de formation de départ, bon, c'est pas la peine. Mais être auteur, écrivain, la formation, maintenant ça apparaît, des creative writing, des choses comme ça, mais la formation, elle est beaucoup plus diluée, etc. etc. La formation de départ joue un rôle, mais plus ou moins selon les métiers, et l'expérience sur le tas, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend par la variabilité même de l'activité. Je vous rappelle que ce qui rend un métier extrêmement attractif, c'est la non-routine. C'est un des vocabulaires les plus simples pour répondre à la question « comment donner du sens à mon travail ?» Eh bien, c'est d'échapper à la routine, avec une nuance intéressante qui est la routine, ça vous procure beaucoup plus d'expérience et d'apprentissage pendant le travail. C'est ce que j'appelle le learning content of work. Un travail qui vous apprend quelque chose, c'est la bénédiction. Mais il y a une contrepartie à ça, c'est que vous risquez d'échouer, vous risquez de vous planter aussi. Et donc, il faut apprendre à gérer l'échec, à gérer la variabilité, etc. etc. Et les arts sont à peu près au sommet de cette situation-là, parce que le principe même des arts, c'est de ne pas être le même en permanence, et de se renouveler, et d'être original, et d'évoluer dans sa carrière, etc. etc. Et donc, tout ça nous mène à la question de comment gérer la relation entre formation de départ, formation qui peut être multiple aussi et qui vous équipe pour savoir développer des compétences, par exemple dans des métiers adjacents que vous êtes obligé d'exercer pour gagner votre vie. Et donc, ces situations d'étudiants artistes, je peux les mettre en résonance avec ça, même si ça n'est pas une règle générale, parce que chaque situation a ses bénéfices et ses coûts pour être géré. Quand vous choisissez d'avoir plusieurs formations, ça veut dire que vous vous espérez un gain après avoir espéré un plaisir, vous espérez aussi un gain possible, et il n'est pas certain, mais il peut vous préparer aussi à gérer des situations soit de réorientation professionnelle, soit d'ouverture des choix professionnels, soit de pluriactivité, dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Les artistes ont souvent plusieurs professions, pas pour toute la vie, mais souvent pour se lancer, pour équilibrer leur situation ou pour se relancer plus tard, etc. Voilà, donc c'est à peu près ce genre de choses qu'on voit dans les données, qu'on voit aussi dans les entretiens, dans les témoignages qu'on recueille, et qui montrent que l'un des mécanismes principaux pour se professionnaliser dans des métiers à forte variabilité de réussite, c'est la réflexivité. C'est sans arrêt réfléchir à ce qui se passe et être équipé pour le faire. Et évidemment, avoir une formation qui est assez ouverte permet de le faire mieux parce qu'elle a elle-même intégré dans au stade même de la formation ce qui peut devenir une situation qui se représentera dans la vie professionnelle tout entière. Voilà ce que je pouvais vous dire sans abuser de votre temps et avant de répondre à vos questions. Merci de votre attention.
Merci, Monsieur Menger. Alors, je me tourne vers la salle pour voir si vous avez des réactions ou des questions par rapport à ce qui vient d'être dit, ainsi qu'à distance, s'il y a des choses qui ont été écrites, envoyées. Alors, on va vous apporter un micro.
J'entends pas.
Non, ça va venir.
Oui. Bonjour et merci pour votre conférence. Je suis Isabelle Lamotte, je suis enseignante à l'Université de Poitiers et j'encadre un atelier de recherche chorégraphique avec les étudiants de Poitiers. On entend souvent parler, et on l'a redit tout à l'heure, de compétences transversales dans l'étudiant qui pratique une activité artistique. Et par rapport à ce que vous avez dit, j'ai l'impression que, en fait, cette question de variabilité, ça va bien au-delà des compétences transversales. C'est-à-dire qu'il y a des compétences sans doute à la fois spécifiques, mais beaucoup plus ouvertes. En tout cas, la question des compétences transversales, moi, m'interroge sur ce que ça veut dire et sur... on a l'impression que elles sont réduites à des compétences qu'on mettrait un peu de côté, alors qu'on a l'impression que des compétences spécifiques dans un métier sont tout de suite plus honorables que les compétences transversales. Et j'ai le sentiment, après ce que vous avez dit, que cette multiplicité, finalement, de compétences pour un artiste est aussi un facteur important. Je ne sais pas si je suis très claire dans la question, mais... en tout cas, cette question de la transversalité, elle m'interroge sur la capacité de reconnaître véritablement des compétences.
Oui, merci pour votre question et vos réflexions. À vrai dire, c'est un combiné des deux. Et La question des compétences est un beau sujet. J'ai travaillé là-dessus quand j'ai fait 2 années de cours sur le sujet du talent. Qu'est-ce que c'est que le talent ? Et tout ça est en ligne, vous pouvez y retourner. Et les vocabulaires pour désigner le capital qu'un individu dont un individu dispose, évidemment, ce vocabulaire évolue dans le temps. On a commencé dans les années 50 par parler des qualifications. Autrement dit, on avait une définition simple de un individu apprend quelque chose, acquiert une qualification, c'est-à-dire il a une formation et elle est employée de manière assez simple dans un métier. Et il y avait des grilles qui faisaient correspondre des formations et des métiers. Et puis cette affaire-là s'est compliquée beaucoup quand on a vu que, au fond, le vocabulaire des compétences s'interposait et devenait plus présent dans le monde du travail, tout simplement parce qu'il désignait deux choses. Il désignait d'une part une variété de qualités individuelles qui pouvaient être utiles, et deuxièmement un potentiel, c'est-à-dire un potentiel de déplacement dans le travail, dans le monde du travail, autrement dit des aptitudes qui sont plus ou moins développées par la formation initiale, mais dont les individus peuvent se savoir porteurs s'ils ont des expériences suffisamment nombreuses pour pouvoir les reconnaître et les voir se révéler. C'est un des grands problèmes des situations de travail, c'est est-ce que vous savez à travers les expériences de travail que vous avez si des potentiels dont vous n'êtes peut-être même pas conscient peuvent se développer ou non. Et donc, ce vocabulaire de la compétence est entré en conflagration avec celui des qualifications, et il a ensuite s'est décliné. Je ne vais pas faire une conférence entière sur le sujet, mais j'essaie de répondre à votre remarque très intéressante. Il s'est décliné ensuite en des hard et soft skills. Les hard skills, ce sont des compétences essentiellement cognitives qui sont reliées beaucoup à la formation initiale. On peut mettre beaucoup de choses dans la cognition, mais enfin bon, on voit à peu près de quoi il s'agit. Et puis les soft, alors c'est une palette de compétences à la fois d'interaction, d'apprendre à apprendre, presque de métacognition. Ça, c'est un point intéressant. Et je pense que quand on parle de transversal, évidemment, soit on en fait une sorte de catalogue instrumental en disant voilà, quelles sont les compétences transversales. Ça, c'est une manière classique de rapatrier le casse-tête dans une sorte de zone tranquille. On se dit, voilà, je vais instrumenter ma définition des compétences transversales et je vais les appliquer. Bon, je pense que c'est un peu plus subtil que ça. Effectivement, il y a des noyaux de compétences qu'on doit détenir dans des métiers, et puis il y a un halo de compétences différentes qui sont liées aussi à la variété de l'exercice d'une profession et d'un métier, encore une fois, qui n'est pas routinier. Et un des points clés des métiers avec beaucoup de variabilité dans l'exercice, c'est d'apprendre sur soi-même. Quand on apprend sur le métier, mais on apprend aussi sur soi-même. Et ça prend beaucoup de formes. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Je discutais un jour avec un photographe à la faveur d'une enquête qu'on faisait avec les syndicats d'employeurs et de salariés des professions artistiques. Et ce photographe, qui était par ailleurs un syndicaliste extraordinairement talentueux, je dois dire, c'était mon meilleur lecteur de tout ce que je faisais à l'époque sur ce sujet-là, m'avait dit « Aujourd'hui, je vais travailler avec pour un employeur qui je n'apprendrai pas grand-chose parce que je sais déjà faire, mais demain, je vais travailler avec des gens avec qui je n'ai jamais travaillé et c'est un projet entièrement différent de ce que je fais d'habitude. Le premier, celui où je sais à peu près ce qui va m'arriver, il est très bien payé. Et l'autre, il n'est pas bien payé du tout. Eh bien, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de savoir assurer mon gagne-pain avec des choses que je sais déjà faire et qui ont un caractère un peu routinier. Et j'ai besoin sans arrêt de me former encore et encore à travers des expériences de travail différentes qui seront peut-être moins rémunératrices, mais qui vont m'apporter quelque chose. Autrement dit, dans la vie d'artiste et dans beaucoup de métiers, et le mien c'est pareil aussi, vous avez toujours deux dimensions. Il faut que voilà, j'assure mon quotidien matériel, mais il faut aussi que j'ai une teneur en formation de mon travail qui soit constamment entretenue et qui me révèle des choses sur ce que je peux faire. À la fois pour augmenter ma réussite possible ou mon imagination possible dans tel ou tel métier, mais aussi pour éventuellement regarder si je peux orienter mon activité dans tel ou tel sens. Si je n'ai pas assez d'informations et sur l'univers où je suis actif et sur moi-même, je perds en quelque sorte ce coefficient de variabilité et de dynamique de transformation de la situation qui est nécessaire pour ne pas, parce que sinon vous êtes de toute façon, vous êtes délogé par des jeunes qui vont vous faire concurrence très vite. Et ces métiers ont une très forte compétition interne, et donc l'effet vintage arrive très vite. Beaucoup de nouveaux qui arrivent, etc., etc., et qui arrivent avec des connaissances plus fraîches, des technologies dont ils sont plus familiers, une sensibilité à l'air du temps qui est plus importante, etc., etc. Et donc il vous faut, vous, dans ces métiers-là, trouver le moyen de rester extrêmement sensible à tout ça. Et alors, ça devient une forme de compétence, disons, l'aptitude à gérer la variabilité devient une forme de compétence, ou peut-être même une méta-compétence. Je pense que penser en termes de méta-compétence, c'est pas mal du tout, parce que ça permet de se dire, dans chaque situation, je dois non seulement exercer au mieux de ce que je peux faire, mais je dois garder une sorte de réflexivité pour dire, je pourrais aussi faire autrement, ou je pourrais choisir autrement. Et ça, c'est extrêmement important.
Merci bien. Est-ce qu'il y avait une autre question dans la salle ? Ou à distance, non, je ne vois personne, non, derrière. Moi, j'avais juste une question pour revenir quand même un peu, pour recentrer sur notre sujet. On voit que la limite ou la définition de l'étudiant artiste, nos référents artistes qui accueillent des jeunes qui viennent le voir, voyez, on l'a entendu dans le témoignage de Romain tout à l'heure, elle se disait, mais est-ce que finalement... Mon activité va être reconnue comme telle par l'université ou pas. On a vu dans votre exposé justement cette référence soit au métier, soit à l'environnement, hein, au domaine d'activité, au secteur, que du coup il y a une variabilité en fait, hein, de cette définition. Mais alors moi ça m'interroge aussi sur la question de la limite. Et c'est souvent ce qu'on nous renvoie, nous, au ministère. Mais est-ce que cet étudiant-là, il est artiste ou pas ? À partir de quand on va considérer que, oui, son activité est une activité qui requiert des contraintes et qui fait qu'on va pouvoir lui faire bénéficier d'aménagements, ou au contraire, non, peut-être moins. Et je prendrai comme exemple, on travaille aussi au ministère sur d'autres profils d'étudiants, par exemple sur le sport. Quand on a commencé à travailler, nous, au ministère, sur ces questions-là, sur le sport, c'était très simple. On est allé voir le ministère des Sports, on leur a dit « Est-ce qu'il y a des étudiants sportifs de haut niveau ?» Et on nous a répondu « Bah oui, il y a une liste. » C'est très simple. Voilà. Alors du coup, on est allé voir le ministère de la Culture, on leur a posé la même question. Et là, on attend toujours la réponse. Donc, voyez, si vous voulez, c'est ça que je voulais un peu voir avec vous aussi. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous avez évoqué également, en plus, une évolution des métiers, hein, notamment aujourd'hui avec le numérique. Par exemple, il y a la question de l'IA aussi qui pose beaucoup d'interrogations. Est-ce que vous avez justement donc sur ces questions-là des éléments qui pourraient aider nos collègues à trouver des éléments de réponse pour avancer sur finalement, est-ce que la personne que j'ai en face de moi, on peut la considérer comme un artiste ou pas ? Je sais que c'est une question complexe, hein, mais voilà, je vous reformule cette question.
Oui, vous voulez des travaux pratiques, vous avez bien raison. Si je peux parler de beaucoup de choses, mais si ça ne vous est pas très utile, ça serait dommage. Et évidemment, en même temps, y a ce que j'ai compris à travers ce que m'a transmis Anaïs Riedel sur la situation des étudiants artistes, ce sont des analyses de cas. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas d'algorithme. Ou alors, peut-être qu'il y aura un algorithme qui va vous résoudre la question si vous introduisez suffisamment de cas dans la machine et que vous dites, alors qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que vous avez pu algorithmiser et transformer en indices et en facteurs les situations qui sont en fait assez floues. Parce qu'il faut d'une part mesurer la motivation exacte des individus, amener des situations de formation qui sont pas banales, qui sont un peu exceptionnelles, et d'autre part mesurer l'intérêt à la fois pour l'individu et pour l'institution. C'est compliqué. Mon idée pour répondre, c'est que vous devez avoir un faisceau d'indices. Et ce faisceau d'indices, il est à la fois utile pour vous-même, mais aussi vous devez pouvoir interroger l'étudiant pour savoir, au fond, quelle est la réponse qu'il apporte à l'idée de complémentarité ou pas de cette double formation. Non pas simplement de déclarer, voilà, je fais ci, je fais ça, mais de décomposer un peu la question en disant, qu'est-ce que je cherche exactement dans cette double formation et d'arriver à le documenter précisément. Alors peut-être que la personne fera appel à l'intelligence artificielle pour dire comment est-ce que je vais répondre à cette question-là, ça n'est pas exclu, et vous-même aussi peut-être, et ça arrivera, hein. Si je le dis maintenant, c'est que ça va arriver ou c'est déjà en cours, mais c'est une bonne manière de mettre au point le mécanisme. Puisque vous êtes sans arrêt à analyser des cas particuliers, vous n'êtes pas submergé par des demandes de tous ordres, mais vous devez gérer des cas particuliers, et ceux que j'ai en main là, qui m'ont été transmis, me laissent penser que l'analyse de cas, c'est un bon moyen de faire, mais il faut encore l'instrumenter et dire, bon, j'ai besoin de quels indices exacts et de quel niveau de réflexivité de l'individu pour se mouvoir dans un environnement de formation qui est un peu plus compliqué pour lui et pour l'institution que la formation normale. Et voilà. Et puis peut-être, je ne sais pas combien de temps ce statut fonctionne, mais est-ce que il y a un moyen de vérifier au bout d'un certain temps la chose, est-ce qu'elle est productive ou elle n'est pas productive, à la fois pour, au fond, faire un calcul de coût-bénéfice pour chacun, vous et l'étudiant artiste, s'il perd sa vie à se former et pas à la gagner, est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que ça vaut quelque chose ou pas dans les temps qui viennent, avec les technologies qui s'annoncent un peu menaçantes, la formation sera un sujet plus complexe et pour lequel il faut être bien... Bon, savoir anticiper un peu plus. Et donc, voilà, c'est ça mon idée de la chose, c'est une double révélation. Quels sont les faisceaux d'indices que vous utilisez ou les critères, la critériologie, mais il faut la décomposer assez finement. Et de l'autre côté, pareil, est-ce que l'individu peut, l'étudiant peut, ou l'étudiante peut donner une analyse suffisamment fine des différents critères de productivité de cette double formation qui mettent en quelque sorte l'affaire, en capacité d'effectivité ou voilà, à l'épreuve du réel. C'est ça mon idée. Parce que sinon, si vous rêvez d'une définition pure et parfaite de l'artiste et d'une définition pure et parfaite de la complémentarité avec la situation de formation complémentaire, bon, peut-être ça marchera pour un certain nombre de cas, là, ce sera très simple. Mais si, par exemple, vous avez une étudiante en médecine qui fait une formation qui est aussi musicienne, comme on l'a vu, vous vous direz, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Et donc, c'est là que, et je l'ai trouvé d'ailleurs, les réflexions de cette étudiante étaient intéressantes parce qu'il y avait beaucoup de réflexivité. Il y avait l'idée, est-ce que ça va tenir, ça va pas tenir, et ça, c'est très intéressant. Est-ce que je vais aller plus loin? Est-ce que ça va me coûter beaucoup trop dans ma formation médicale? Je serai une sorte d'interne de pacotille ou bien sous-développé, etc. Voilà des questions intéressantes parce que elles font rebondir l'affaire sur les deux plans, la formation sur les deux niveaux, les deux types de formation. Il y a une interaction dynamique entre les deux et le mesurer en termes de dans le temps, dans le processus temporel, c'est intéressant aussi parce que le but c'est quand même que ça, tout le monde soit gagnant plutôt que d'avoir une sorte de situation de confort ou bien de ah oh bon on ne sait pas, allez hop on lui donne et puis bon au bout du compte ça ne sert à rien ou etc. Ou bien on a raté une occasion qu'on n'avait pas comprise parce qu'on pensait que c'était totalement incompatible et en fait non, etc. Voilà, c'est ça mon idée de la chose.
Merci beaucoup. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions dans la salle. Je redemande toujours à distance, pas de questions ou d'observations non plus. Non, je n'en vois pas. Écoutez, on va vous remercier pour votre intervention et ces échanges. Merci beaucoup à vous.
Et bon travail, et bonne journée de réflexion, et voilà, et bonne matinée et bonne journée à Poitiers.
Merci beaucoup à vous. On peut vous applaudir. Merci bien.
Merci. Au revoir.